Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. François Bernard.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute d'Accent du Monde. Comme tous les vendredis soirs sur RFI, on évoque des moments forts de l'actualité avec les rédactions en langue autre que le français de votre radio. Et ce soir, dans le studio de RFI, j'accueille Ladan Firouzbart du service en persan. Bonsoir.
Salam.
Hermine Roumiak du service en chinois. Bonsoir.
Mira.
Et Xenia Goulia du service russe. Bonsoir. Merci de votre collaboration à cette émission. Alors, en deuxième partie, nous évoquerons en Russie la bataille judiciaire d'Alexei Navalny pour se présenter à l'élection présidentielle et puis la première visite d'État de M. Macron en Chine du 8 au 10 janvier prochain. Mais pour l'instant, on évoque la situation en Iran avec vous tout d'abord, Ladan Firouzbart. En Iran, où depuis le jeudi 28 décembre, les Iraniens descendent dans la rue pour protester contre les difficultés économiques, le chômage, la corruption, l'absence de démocratie du régime. Des manifestations marquées par de nombreuses violences. On va revenir tout d'abord à l'origine de ces protestations, Ladan. Comment et pourquoi ont-elles commencé?
Les proches du gouvernement accusent les adversaires conservatoires, notamment Alaa Molhoda, de les avoir organisés à Mashhad pour affaiblir Hassan Rouhani, le président. Alaa Molhoda est le représentant du guide suprême à Mashhad, deuxième grande ville de l'Iran. Il est aussi proche de Raisi, l'adversaire de Hassan Rouhani, lors de l'élection présidentielle en mai 2017. Mais les slogans plutôt économiques sont rapidement passés de l'économie à des slogans hostiles au président ou au guide suprême. Son mouvement a touché rapidement les petites comme les grandes villes, dont la capitale Téhéran.
Et qui sont ces manifestants, alors, précisément?
Les manifestants les manifestations de contestation ont trouvé prise auprès de classes populaires et des jeunes pour des raisons différentes. La condition de vie a été un peu améliorée après l'accord sur le nucléaire et la levée des sanctions. N'a pas atteint la classe populaire comme le chômage de 10%.
Mais quels sont les slogans politiques? Alors, que disent ces manifestants et contre qui est dirigé le mouvement?
Les slogans sont clairement contre le pouvoir en place, notamment contre le guide, le président de la République islamique, contre les religions, contre la corruption, contre l'intervention coûteuse et les engagements de l'Iran dans les conflits de la région, en Syrie ou en Irak notamment, comme pas Gaza, pas le Liban, ma vie en Iran, et en faveur de la démocratie, de la République iranienne, de la séparation et de la religion et de l'État. Et comme vous entendez, les manifestants ont aussi exprimé leur respect envers le fondateur de la dernière dynastie, le régime Pahlavi, comme Père Atonam Reza Shah.
Et quelle a été la réponse des autorités alors?
Des pro-régimes ont remplacé les facteurs des troupes d'après le régime dans les rues à partir de mercredi soir, après l'intervention du guide suprême.
Gauchman.
Et il a qualifié les manifestants d'ennemis de la République islamique. Le lendemain, le chef des Pastarans a annoncé la fin de la sédition et a sifflé la coupe d'envoi de la répression. Le mouvement de contestation a marqué un temps d'arrêt. Le pouvoir semble avoir repris la main, mais d'après plusieurs vidéos et des images postées sur les réseaux sociaux, les manifestations ne sont pas arrêtées complètement, malgré une faible ampleur.
Et est-ce que cet hiver iranien, si l'on peut dire, va connaître un printemps? Quelles sont les particularités de cette mobilisation?
C'est très tôt pour le dire. Il faut voir comment le mouvement s'évolue. Mais les semaines à venir pourraient s'avérer décisives. Une réforme, une révolte ou une révolution, pardon. Et il y a plusieurs scénarios. Évidemment, les Iraniens ont bien retenu la leçon du conflit syrien et ne veulent pas le chaos. Les manifestants ne sont pas dirigés contre une faction et en soutien à l'autre. Pour les manifestants, il n'y a pas de distinction entre les deux factions et ils disent qu'ils ne font pas confiance aux promesses de réforme, mais dans l'absence d'une figure émergée pour prendre le leadership de la contestation, le mouvement risque de s'éteindre vite. Désormais, je cite l'analyse d'un chercheur du Middle East Institute à Washington et spécialiste de l'Iran qui l'estime son mouvement de colère diffuse. Rappelons que la place centrale des revendications sociales, économiques et démocratiques dans la vague de contestation actuelle ne laisse pas le moindre doute sur la nature progressiste de son mouvement. Il est du devoir de la communauté internationale d'apporter un soutien inconditionnel à cette manifestation.
D'accord. Merci, Ladan Firouzbart. En Russie, Xenia Goulia, le ministère des Affaires étrangères estime qu'il s'agit d'une affaire intérieure de l'Iran et il met en garde les États-Unis contre une ingérence dans la politique iranienne, n'est-ce pas ?
Oui, et cette réaction était quand même très attendue. Le régime iranien, c'est un allié militaire de la Russie en Syrie et c'est même l'un des rares alliés du Kremlin tout court. Pour Moscou, Washington cherche un prétexte pour faire monter la pression sur l'Iran et notamment pour mettre en cause et modifier l'accord sur le nucléaire. En Russie, ils considèrent que c'est complètement destructif. Moscou est aussi contre les réunions du Conseil de sécurité de l'ONU proposées par Washington et pense que c'est aux Iraniens de régler eux-mêmes cette crise interne.
Alors, Moscou a tout de même mis du temps, une semaine, pour réagir clairement et fustiger encore une fois la politique extérieure des États-Unis.
Oui, et ça, c'est assez curieux. On a eu l'impression que la Russie était un peu figée dans l'attente. Elle voulait d'abord observer, voir combien de temps ça allait durer, combien il aurait de victimes, à quel point le régime était réellement menacé. L'homme politique Leonid Gozman estime que la Russie ne peut pas changer la situation en Iran et c'est pour ça qu'elle préfère la prudence.
Et dans cette crise, alors qu'est-ce qui inquiète la Russie précisément ?
La Russie craint qu'à cause de la crise, Téhéran arrête son aide militaire et financière au régime de Bachar al-Assad. Le régime de Damas tomberait alors assez vite. Et pour la Russie, cela voudrait dire la fermeture de ses deux bases militaires en Syrie et de la perte de cette dernière position dans cette région. Mais le spécialiste du Proche-Orient, Mikhail Krutikin, pense que cela n'arrivera pas. Il dit que c'est difficile d'imaginer que des dizaines de milliers de combattants, membres des unités militaires et paramilitaires, des gens qui sont habitués à faire la guerre, rentrent en Iran. Personne n'a besoin d'eux en Iran et donc ils vont juste continuer de participer aux opérations en Syrie, en Irak, au Liban, etc.
Est-ce que la Russie peut tirer profit de cette crise iranienne ?
C'est possible d'un point de vue financier car la Russie, grand producteur de pétrole, profite de la hausse des prix du baril ces derniers jours. Avec l'instabilité au Proche-Orient, les prix ont atteint leur plus haut niveau depuis 2015 et selon Forbes, si la crise dure et si l'Iran entre en conflit avec l'Arabie Saoudite, le baril de pétrole peut de nouveau coûter 100 dollars et même plus.
Xenia Goulia de la rédaction russe. Hermine Roumiliac de la rédaction en chinois. Les Américains ont donc accusé l'Iran d'être un pays voyou. Quelle réaction en Chine vis-à-vis de ce mouvement social et politique en Iran ?
On peut dire que c'est totalement autre chose. En fait, la réaction venant de la Chine se divise en deux parties. Je peux dire que celle du gouvernement et celle des internautes. Mm-hmm. D'abord, côté officiel, pour répondre à la question concernant l'Iran, le porte-parole des affaires étrangères chinoises a simplement dit qu'il espère que l'Iran retrouve sa stabilité rapidement et pourrait réaliser le développement. Et comme il y a des points similaires, que ce soit sociaux ou politiques, entre la Chine et l'Iran. Donc, comme pendant la révolution de Jasmine en 2011, le gouvernement chinois ne veut pas que les mouvements sociaux de ce genre inspirent la population en Chine parce que la stabilité sociale est le mot d'ordre qu'il faut jamais, à tout prix, il faut le préserver.
D'accord. Et plus globalement, alors, quelle est la relation entre la Chine et l'Iran ?
Oui, brièvement, on peut dire que les deux pays ont une très bonne relation. Ils ont établi un partenariat stratégique. Les piliers de ces relations spéciales sont les commerces du pétrole et de gaz, en fait. Et la Chine a été l'un des plus grands soutiens de l'Iran pendant ces années de blocus international. Et surtout, l'Iran est un pays incontournable pour le projet du siècle chinois, c'est-à-dire la nouvelle route de la soie, en raison de sa position géopolitique et son influence dans la région. Donc, la Chine n'a aucun intérêt de voir l'Iran en explosion politique ou sociale.
Et quelle a été la réaction, alors, du côté des internautes en
Alors,
Chine?
Les internautes, il y a des tweets qui mettent en garde le gouvernement chinois de faire des changements pour éviter la situation similaire de se produire en Chine. Mais les autres internautes répliquent en disant que le Big Brother, dans le roman de George Orwell 1984 est une réalité en Chine, en fait. Beaucoup de gens subissent, soi-disant, le lavage du cerveau. Donc, ils disent, même s'il y a une famine très grave en Chine, il n'y aura pas de révolution en Chine. Mmh. En même temps, il y a des internautes qui critiquent les Américains ou d'autres pays d'ingérence en Iran. Ce sont des truites visibles en Chine.
D'accord.
Fait.
Mmh. Cette situation en Iran, est-ce qu'elle fait penser au mouvement démocratique en Chine qui s'est déroulé au printemps 1989?
Oui, on peut voir les foules dans la rue, les répressions, accusations des mains noires venant d'étrangers et tout ça. Et en tout cas, c'est ce qu'ils pensent, monsieur Wei Jingsheng, qui est exilé aujourd'hui aux États-Unis. On l'écoute. Pour lui, il y a trois côtés similaires. D'abord, dans les deux cas, ce sont des jeunes qui manifestent. Il y en a en même temps une base sociale très large et représentative de ces mouvements sociaux. Mmh. Ensuite, il y a des divisions dans le gouvernement des réformateurs et des conservateurs. C'était le cas aussi en Chine en 1989. Et surtout, les réformateurs ont été entraînés dans ces mouvements et le résultat est probablement pas celui voulu par les manifestants. Et enfin, il dit que les deux mouvements ont été réprimés par la force d'État, ce qui est pour lui très très regrettable.
Bien, merci Hermine Roumiac.
Bienvenidos a este informativo de Radio France Live with me, today's
headlines. Accent du monde. François Bernard.
Deuxième et dernière partie d'Accent du Monde en compagnie aujourd'hui de Ladan Firouzbart du service en persan, d'Hermine Roumiac de la rédaction en chinois et de Xenia Goulia de la rédaction en russe. Un dernier point peut-être concernant la situation en Iran, Ladan Firouzbart. L'audiovisuel public a été critiqué pour son rôle un petit peu négatif, la couverture de cette vague de contestation. Comment cet audiovisuel public a-t-il couvert la mobilisation ?
La télévision d'État a diffusé depuis mercredi dernier des images de manifestations pro-régime dans plusieurs villes. En revanche, les images des manifestations de contestation sont couvertes par ces médias de façon inappropriée et à sens unique. Donc, le rôle négatif de l'audiovisuel public est l'un des sujets principaux postés sur les réseaux sociaux dans les dernières heures. Non seulement la majorité des Iraniens, mais aussi des professeurs à l'université, des activistes, aussi bien quelques délégués de l'Assemblée nationale ont critiqué le rôle de la télévision et la radio publique. Et un délégué de l'Assemblée nationale, dans un tweet en critiquant le rôle négatif de la télévision d'État, a réagi qu'un tel positionnement rend les gens malheureux.
Alors, qu'est-ce qu'ils exigent en réaction ?
Alors, la télévision et la radio d'État en Iran, ils s'appellent IRIB, ça veut dire Islamic Republic of Iran Broadcasting. Les Iraniens ont lancé sur les réseaux sociaux le hashtag de Ban IRIB en demandant de la communauté internationale une réaction forte contre cette administration.
Cette télévision d'État.
D'accord. Mais Shirin Ebadi, avocate et la lauréate iranienne du prix Nobel, quant à elle, a appelé la communauté internationale de prendre des mesures contre des dizaines de chaînes de gouvernement. Elles sont une partie de la politique étrangère injustifiée du régime, estime-t-elle.
D'accord, merci à vous. Voilà, on va laisser les manifestations en Iran maintenant pour s'intéresser à l'opposition en Russie, Xenia Goulia. L'opposant russe, Alexei Navalny, dont on parle souvent sur RFI, il continue cette bataille judiciaire pour se présenter du moins à l'élection présidentielle, ce sera en mars prochain. La commission électorale russe l'a déclaré inéligible jusqu'en 2028 en raison d'une condamnation en justice. La Cour suprême a confirmé cette inéligibilité cette semaine. Il a de nouveau fait appel. Alors pourquoi Navalny continue-t-il à se battre ? Est-ce qu'il espère un miracle ?
Non, pas du tout. Les partisans de Navalny n'espèrent aucun miracle, mais ils veulent quand même épuiser tous les moyens judiciaires. Ivan Jdanov, juriste de la fondation de Navalny, explique pourquoi. Il dit qu'avec cette démarche judiciaire, Navalny veut montrer que la justice n'est pas du tout indépendante, que la Cour suprême et la Cour constitutionnelle dépendent de la volonté politique d'une seule personne, du président Poutine.
D'accord. Mais Navalny a appelé donc ses partisans à boycotter les élections. Ce boycott ne fait pas l'unanimité. Il y a des voix qui comptent dans les rangs de l'opposition, qui s'y opposent d'ailleurs complètement.
Oui, par exemple, l'opposant Mikhail Khodorkovsky, l'ex-PDG de la compagnie pétrolière Yukos, pense qu'il faut quand même aller voter pour n'importe quel candidat sauf Poutine, ou voter nul en déchirant son bulletin de vote. Il faut savoir que le vote blanc n'existe pas en Russie. Par contre, il y a une candidate qui dit remplir ce rôle du vote blanc. Cette candidate, elle s'appelle Ksenia Sobchak. C'est une ex-vedette de télé-réalité, mais c'est aussi la fille d'Anatoly Sobchak, l'ex-maire de Saint-Pétersbourg et le menteur politique de Poutine.
Et du coup, les partisans de Navalny accusent cette candidate d'opposition, Ksenia Sobchak, d'être en fait soutenu par le Kremlin et de servir d'alibi d'une certaine manière à Poutine pour vanter le pluralisme.
Et elle nie avoir les liens avec le Kremlin, mais beaucoup d'observateurs pensent tout de même qu'elle fait le jeu du pouvoir. Écoutez par exemple le politologue Fedor Krasheninikov. Il dit que Poutine vieillit, devient une figure rituelle. Il n'y a rien d'excitant d'aller voter pour lui, même pour ses fidèles partisans. Et Ksenia Sobchak rend la campagne plus vivante, un peu plus dynamique. Et ce qui est le plus important, c'est qu'elle n'est pas une vraie menace pour le pouvoir comme Navalny. Sa cote de popularité est très très basse et cette jeune femme, qui a une réputation sulfureuse, reste un objet de haine pour beaucoup de gens en Russie. Sa participation rend aussi cette élection plus légitime. C'est une sorte de vitrine pour montrer que les élections sont démocratiques en Russie.
Merci Xenia Goulia. Je reviens vers vous, Hermine Roumiac. Le président français, Emmanuel Macron, va entamer, ce sera du 8 au 10 janvier prochain, son premier voyage de l'année. Et la destination de cette visite, c'est la Chine. Cette visite est visiblement aussi importante pour la France que pour la Chine.
Oui, l'avion présidentiel décollera demain soir de Paris pour la ville de Xi'an en Chine. Donc d'abord, pour la France, nouer la relation avec le président chinois et renforcer le partenariat stratégique avec la Chine sont des objectifs présentés par l'Élysée à propos de cette visite. Donc, M. Macron sera accompagné de plus de 50 chefs d'entreprises françaises pour signer des contrats que la France a tant besoin pour faire décoller sa croissance. Mmh. L'Élysée parle d'une série de contrats dans plein de domaines, par exemple l'aéronautique, le nucléaire civil, la numérique, l'économie du vieillissement, l'intelligence artificielle, la culture, l'agricole et le tourisme, etc. etc. Mmh. Donc, il y aura une cinquantaine de contrats qui vont être signés pendant ce voyage. En outre, selon l'Élysée, le réchauffement climatique, la situation en Syrie, la Corée du Nord seront des sujets internationaux abordés pendant l'entretien avec M. Xi Jinping. Donc les deux pays ont visiblement besoin mutuellement pour pouvoir régler quelques problèmes épineux internationaux.
Alors côté chinois, que peut-on espérer de la visite de M. Macron?
D'abord, la Chine populaire s'est toujours montrée très reconnaissante vis-à-vis de la France parce que c'est la France qui a été le premier pays occidental qui a reconnu la Chine populaire. Donc, la Chine s'est dit maintenant entrer dans une nouvelle ère après le 19e congrès du Parti communiste en octobre dernier et a tourné également une nouvelle page diplomatique. Selon la définition du président chinois Xi Jinping, la nouvelle diplomatie à la sauce chinoise, c'est approfondir la disposition diplomatique globale, élargir le réseau de partenariat mondial et aussi élargir continuellement avec le cercle d'amis dont la France en fait partie.
Mmh. Alors, il paraît que le couple Macron est très populaire en Chine.
Oui, parce que les Chinois se sentent vraiment très proches de Macron, puisqu'il s'est dit plusieurs fois maoïste. Il n'a pas hésité à citer les phrases de Mao Zedong et de Deng Xiaoping pendant les présidentielles. Et la Chine pense trouver chez M. Macron un partenaire compréhensible et pragmatique. Le couple Macron fascine aussi le Chinois par rapport à leurs différences d'âge. Ça fait couler beaucoup d'encre aussi. Et cerise sur le gâteau, il y a eu récemment, peut-être vous le savez, la naissance d'un bébé panda au zoo Beauval. Donc, Madame Brigitte Macron en est marraine. Ce bébé panda a été baptisé Yuanmeng, traduit en français, c'est réaliser le rêve. Donc, ce bébé panda est devenu, encore une fois, le symbole d'amitié entre les deux pays.
On n'aura pas le temps d'en dire plus, malheureusement. Merci à toutes les trois. Ladan Firouzbart du service en persan, Hermine Roumiak de la rédaction en chinois et Xenia Agulia de la rédaction en russe. Merci à Jean-Philippe Thury qui réalise cette émission. Vous restez à l'écoute de Radio France Internationale.